Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Après deux années de Covid qui ont marqué notre quotidien, le stress épidémique est enfin retombé et on a l'impression que cette épidémie est derrière nous. Eh bien, hélas, pas tout à fait. Et d'ailleurs, la DGS a proposé une campagne vaccinale de printemps et d'automne pour certaines populations. Sandra Fournier, directrice générale de France de Moderna, spécialiste de la vaccination à ARN messager, nous l'explique. Les négociations conventionnelles entre les médecins et l'assurance maladie se sont soldées par un échec total. De ce fait, un règlement arbitral a octroyé aux médecins une augmentation phénoménale de leurs honoraires de 1,5€. Franck De Vulder, président de la Confédération syndicale des médecins français, le premier syndicat de France, nous décrit une médecine libérale, délaissée, méprisée, ce qui ne va pas arranger d'ailleurs la santé de nos concitoyens. Enfin, Rémi Teston, patron de BuzzFeed Santé, nous parlera des évolutions et nouveautés dans le domaine de la e-santé, les jumeaux numériques, la télésurveillance et surtout son accessibilité. Check-up Santé, c'est parti. Sandra Fournier, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes pharmacien à l'origine.
Oui.
Et vous êtes directrice générale France du laboratoire Moderna, pionnier des vaccins ARN messagers. On peut juste rappeler combien de vaccins vous avez
48 candidats vaccins en développement ou solutions thérapeutiques.
Pour le Covid, combien vous avez fabriqué de vaccins ces dernières années?
On a fabriqué plus de 800 millions de doses de vaccins.
Alors, après, évidemment, ces deux années un peu surréalistes d'épidémie mondiale de Covid-19, on peut dire que le calme est revenu avec l'impression qu'on peut revivre normalement sans protection. Et pourtant, il y a encore des contaminations quotidiennes.
Tout à fait. J'ai regardé les chiffres encore ce matin. Il y avait 3000 cas diagnostiqués hier encore.
Par jour?
Par jour.
Ah oui, quand même. Avec de nouveaux variants ou ce sont toujours les mêmes?
Alors, il y a des nouveaux variants qui circulent. On les regarde. Le QQ1, le Q11, le XBB15, XBB16. Il y en a plusieurs.
D'accord. Pour lesquels, évidemment, les vaccins marchent?
Bien sûr.
Alors, la DGS nous annonce, donc l'OMS a décrété que nous sortions de crise, de l'urgence sanitaire. Mais la DGS, la Direction Générale de la Santé, propose quand même deux campagnes de vaccination.
Alors déjà, il y a la campagne vaccinale de printemps qui a été annoncée par la DGS le 25 avril dernier. Mmh. Cette campagne vaccinale de printemps, elle a commencé le 27 avril. Elle se poursuivra jusqu'au 15 juin. Donc on a 7 semaines pour sensibiliser les professionnels de santé de faire attention aux populations les plus vulnérables, parce que cette campagne, elle s'adresse aux personnes de plus de 80 ans, aux personnes immunodéprimées, aux résidents des EHPAD et des unités de soins de longue durée.
Et les personnes plus sujets, en fait, à risque de Covid sévère, de forme sévère de Covid. Et ça représente combien
de
personnes?
Ça représente environ 5 millions de personnes en France.
D'accord. Qui devraient être vaccinées, donc c'est
ce mois-ci,
jusqu'au 16 juin. Il y a aussi ensuite une campagne de vaccination automnale, ce qui veut dire que les gens qui se vaccinent maintenant devront se revacciner en automne.
Alors,
ou alors c'est une autre population plus
large. Gens qui se vaccinent aujourd'hui, donc c'est ces 5 millions, devront se revacciner en octobre, mais en faisant bien attention à respecter un délai de 6 mois depuis la dernière injection ou la dernière infection. Donc ça, c'est important.
Ça veut dire que la personne âgée qui se vaccine maintenant se revaccine quand?
Dans un délai de 6 mois au minimum.
Ah, dans un délai de 6 mois. Elle peut se revacciner en octobre ou novembre?
Dans 6 mois.
D'accord. Ok.
À partir de 6 mois. Et la campagne de l'automne, elle sera plus élargie, puisqu'elle va, selon les recommandations de l'AHS qui ont été publiées au mois de février, donc qui recommandait deux campagnes, d'où cette mise en place de la campagne de printemps. Il y aura également une campagne de l'automne qui va être plus ou moins couplée à celle de la grippe et qui s'adressera à une population plus élargie à partir de 65 ans. Et puis pour les moins de 65 ans, ceux qui ont des facteurs des facteurs de risque.
D'accord. Et on ne sait pas si ce sera le même variant à la fin d'année, fin d'année.
On surveille bien sûr les variants qui circulent, Fabien, et au mois de juin, on en saura plus sur la composition du vaccin de la rentrée.
Donc, l'avantage en fait du vaccin ARN messager, c'est que ça permet une adaptation rapide.
Tout à fait, Fabien. Mmh. Effectivement, notre plateforme ARN messager permet de nous adapter extrêmement rapidement. C'est pour ça qu'on suit l'évolution des variants, l'évolution du virus. Mmh. On a vu via les indicateurs que le virus circulait toujours. Les indicateurs, même s'ils sont bas, augmentaient un petit peu depuis le mois de mars, ce qui montre que le virus est toujours actif.
Ouais, il y a encore des endroits dans le monde où on n'est pas vraiment sorti de crise ou pas, ou c'est plutôt les pays émergents, ou non, on ne sait pas encore, ou ça a vraiment diminué de façon sensible un peu partout.
Ça a dû diminuer de manière sensible un peu partout, j'imagine, puisque l'OMS a décrété ce week-end qu'il y avait fin d'urgence sanitaire à l'échelon international.
Alors peut-être que l'idée, c'est donc pour la deuxième vague, c'est de profiter pour vacciner les gens contre le Covid et contre la grippe.
Exactement, à partir du début de la campagne co-vaccinale grippe Covid, comme le recommande la HAS.
D'accord, et pourquoi pas de mettre les deux dans un même flacon, c'est possible ou pas encore?
Ah oui, c'est nous on s'y attelle. Mm-hmm. Vous le savez, on a un candidat de vaccin contre la grippe qui est actuellement en phase 3, on a eu des premiers résultats intermédiaires, on continue à développer cette phase 3. Notre idée, c'est de pousser en phase 3 également un premier vaccin combiné grippe-Covid, mais vous le savez, on travaille également sur le virus respiratoire syncytial, parce que les infections de l'hiver, c'est pas seulement la grippe et le Covid, c'est également le VRS.
Mais pour la grippe, donc votre vaccin ARN, pour l'instant, n'est jamais sorti?
Ah non, pas du tout. Il est en cours de développement, il est en clinique.
D'accord. Il se pourrait qu'il sorte en fin d'année ou pas?
Ah non, vous savez, les essais cliniques sont... Phase 3, ça prend un certain temps. Ensuite, on dépose nos dossiers à l'Agence européenne du médicament en vue d'une autorisation, potentielle autorisation de mise sur le marché. Et ensuite, en France, ça doit être soumis à l'avis de la commission de transparence au sein de la haute autorité de santé, puis ensuite au sein du comité économique des produits de santé. Donc c'est un long parcours.
Donc éventuellement fin d'année prochaine?
Peut-être.
Peut-être, d'accord. Donc évidemment, cette vaccination sous forme d'une dose unique contre le Covid?
Alors, c'est une très bonne question, Fabien. Effectivement, Moderna a toujours apporté son soutien aux professionnels de santé. Donc, tous les acteurs du terrain, que sont les pharmaciens, mais aussi, bien sûr, les médecins généralistes et tous les médecins et les infirmières, donc qui ont un rôle de prévention, d'information et de vaccination. Au départ, nous, on adapte au quotidien notre conditionnement à l'utilisation de nos vaccins par les professionnels de santé. Au début, on avait un conditionnement multidose, puis un flacon 5 doses. Et aujourd'hui, notre vaccin bivalent à base d'ARN messager adapté au variant Omicron est disponible en pharmacie sous format unidose.
Encore mieux. Non, enfin, c'est vrai que vu la pénurie de médecins généralistes, je pense que les pharmacies ont un rôle important dans la vaccination cette année.
On a montré que pendant cette phase de la pandémie, que les pharmaciens avaient joué un rôle extrêmement important, qu'ils avaient vraiment un rôle clé à jouer. Et on a vu que cette année, en plus, leurs missions se sont élargies. Donc en termes d'information, de formation et de vaccination, ils vont pouvoir vacciner jusqu'à contre 14 maladies.
Alors, l'ARN messager, justement, c'est une petite révolution qui permet justement de soigner, de prévenir d'autres pathologies. Vous disiez en introduction que vous aviez 48 candidats à vaccins. Dans quel domaine thérapeutique?
Alors déjà, moi, je suis ravie de pouvoir vous partager mon enthousiasme. Je suis persuadée que l'ARN messager va révolutionner la médecine de demain. On est à l'aube de cette révolution et le champ des possibles est immense. Donc bien sûr, on explore le potentiel de l'ARN messager sur les virus respiratoires, mais également sur les virus latents, ces virus qui restent tapis dans votre corps après avoir été infecté. C'est le cas du cytomégalovirus, l'Epstein-Barr virus, le VIH, zona varicelle, herpès. Et on explore également l'ARN messager comme solution thérapeutique. Donc des traitements personnalisés contre le cancer, mais également contre certaines maladies rares, les maladies cardiovasculaires. Donc vous le disiez, Fabien, le champ des possibles est immense.
Bon, on compte sur vous, vous avez intérêt à vous dépêcher, on est d'accord? Merci beaucoup Sandra Fournier, merci beaucoup. On va à présent accueillir Franck de Vulder, qui est le président de la CSMF, Confédération des syndicats de médecins français.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Franck de Vulder, bonjour.
Oui, bonjour Fabien.
Alors, vous êtes gastro-entérologue à Reims, et surtout, et pas seulement surtout, vous êtes président de la CSMF depuis 2022.
Oui,
c'est bien ça. Donc, la CSMF, c'est une confédération?
C'est ça, c'est une confédération de syndicats départementaux régionaux. C'est ça, une centaine. On en a dans l'ensemble des départements français. On est représenté dans toutes les nouvelles régions françaises. Et on est représenté autant chez les médecins généralistes que chez les médecins de toutes les autres spécialités médicales et chirurgicales.
C'est un syndicat qui est relativement ancien, puisqu'il a presque 100 ans.
Oui. CSMF est né en 2028. En 1928, le 6 décembre 1928. Ouais.
J'ai lu sur votre site aussi qu'elle avait été dissoute par Pétain. En 1940.
Incroyable. Bah oui, il y a eu tout problème d'un certain nombre d'organisations qui, dans cette période, ont été complexes et on le sait bien.
Alors, je pense pas que ça soit caractéristique des médecins, mais c'est vrai que les Français sont peu syndiqués quand même.
Oui, les Français sont peu syndiqués. Peut-être parce que, et de moins en moins, et peut-être parce qu'il y a un repli sur soi, un individualisme dans nos sociétés. Peut-être aussi parce que, finalement, à contrario de l'évolution du fonctionnement des démocraties du nord de l'Europe, on a donné au corps intermédiaire un poids de moins en moins important. Et que finalement, d'aucuns, on a parfois la faiblesse de penser que c'est dans la rue, c'est en hurlant et en manifestant qu'on trouvera voie du passage de ces revendications.
C'est bien dommage. Dites-moi, est-ce que les médecins sont une espèce en voie de disparition ?
Non, les médecins ne sont pas une espèce en voie de disparition, mais la santé va mal, les médecins vont mal, de tout secteur.
D'autres soucis, il y a une pénurie. Cette pénurie, elle n'est pas obligatoirement due au numerus clausus.
Elle est en partie due au numerus clausus. Le numerus clausus a consisté, depuis le début des années 80, à diminuer de façon forte le nombre de médecins en formation. Dans les années 70, nous formions 7000 médecins par an. Début des années 90, à peine un peu plus de 3000. On est aujourd'hui à 10 000.
Parce qu'on pensait que moins il y avait de médecins, moins on prescrirait, moins ça coûterait l'assurance maladie.
Absolument. C'est un problème de macroéconomie. Ouais. Alors qu'à l'époque, les acteurs, certains présidents de syndicats, les doyens de faculté de médecine, pointaient du doigt le risque qu'il y avait à moins former de médecins quand on savait que la population augmentait, que les maladies chroniques depuis les années 70 prenaient un poids de plus en plus important, et que les effets du baby-boom, donc toute cette génération d'après-guerre, allaient partir massivement au début des années 2000.
Alors, il y a un truc qui m'échappe, qui me rend perplexe depuis des années. Quel que soit le parti politique, comment ça se fait que les médecins soient si oubliés, soient si peu comptés, voire méprisés ? Comment c'est possible ?
Parce que je pense qu'on a trop longtemps pensé que la médecine était un coût pour la société. Alors que les dépenses de santé, c'est quasiment 12 points de PIB. C'est à peu près identique dans les pays qui nous entourent. Un petit peu plus en France. On est un point au-dessus ou deux. Et on a souvent considéré que c'était une charge et un coût pour la société. Alors que je suis convaincu, et de plus en plus d'acteurs, d'économistes sont convaincus, que la santé, finalement, ça concourt au bien-être, ça concourt à augmenter l'espérance de vie en bonne santé, ça concourt au mieux vivre, et finalement, ça a un impact individuel pour chacun, mais c'est aussi un impact économique pour la société. Si on vit plus âgé, moins malade, plus productif et en meilleure santé, finalement, c'est un bien pour tous.
Évidemment. Alors, il y a eu récemment des négociations conventionnelles, c'est entre l'assurance maladie et les médecins. Ça a été un véritable échec.
Oui.
Du coup, règlement arbitral.
C'est ça.
Notamment sur les honoraires des médecins, des honoraires qu'on a très généreusement augmenté de 1,5 €. Comment les syndicats pourraient accepter un truc pareil ?
Alors, un règlement arbitral, on n'a pas accepté ou pas accepté.
C'est parce que vous n'avez pas accepté en amont.
C'est ça, parce qu'on n'a pas accepté en amont les conditions mises sur la table de cette négociation conventionnelle qui était contrainte par un budget global faible. On sait tous que les médecins français, les médecins libéraux français ont l'acte le moins bien rémunéré de l'ensemble des pays qui nous entourent, de l'ensemble des pays de l'Europe de l'Ouest, mais tout à fait significative. Et quand on nous met finalement avec un ONDAM, c'est-à-dire un objectif national de dépenses d'assurance maladie pour la médecine de ville, ce que la médecine de ville va pouvoir dépenser en 2023 à 2,9 points et qu'on a une inflation qui est à 6,5 ou à 7, on nous demande de faire plus, de nous réorganiser.
En gagnant moins.
Mais en gagnant moins, ou en tout cas avec moins. Et donc, ces négociations ont échoué, ont effectivement abouti à un règlement arbitral qui augmente la consultation du médecin d'1,5 €.
Et encore, c'est dans 6 mois.
Et c'est dans 6 mois, et ça n'avait pas bougé depuis 2017. Trouvant un autre bien de consommation qui est subi finalement la même chose depuis 2017, on a cherché, ça n'existe pas.
Le drame, c'est qu'on n'a pas les moyens de casser les vitrines, ni de...
Oui, mais le but, c'est pas de casser, c'est de construire. Mais on construit pas tout seul.
Alors, justement, pour essayer, en attendant peut-être 15 ans, hein, parce qu'il y a toujours une grosse inertie avant que la population médicale augmente, est-ce que les syndicats sont d'accord pour des délégations de tâches avec les infirmières de pratique avancée, avec les kinés? Ou alors il y a encore des combats d'arrière-garde, chacun plaidant pour son magasin, non?
En tout cas, le corporatisme qu'on nous accuse parfois de mettre en avant, moi je le revendique pas, bien au contraire. La situation qui est la nôtre est grave, le système de santé va mal, l'accès aux soins de nos concitoyens est difficile, et il va falloir faire appel à l'aide de tous, mais pas à n'importe quelle condition. La première condition, c'est que la rémunération de l'expertise du médecin soit à hauteur de son expertise et de son engagement. Évidemment. La deuxième condition, c'est l'égale qualité à l'accès aux soins de tous. Et pour avoir une égale qualité, il faut que cette délégation, ce partage de compétences, pas le transfert de compétences. La compétence, ça ne se transfère pas.
Par exemple, délégation, on va donner un exemple aux infirmières, la pratique avancée.
Oui, et bien ça puisse se faire dans un cadre coordonné.
D'accord.
Et protocolisé, c'est-à-dire qu'on répond à des référentiels métiers de qualité, que l'on soit infirmière ou médecin, et dans cette organisation, dans ce parcours, il y a un pilote, et le pilote, c'est notre médecin de famille.
D'accord, il y a d'autres moyens aussi de combler un petit peu cette pénurie, c'est les nouvelles technologies, dont la télémédecine.
Oui, tout à fait. La télémédecine, il y a plusieurs aspects. Il y a la télésurveillance des plus fragiles, les patients qui ont des maladies graves. Vous le savez bien, en cardiologie en particulier, mais en diabétologie, en néphrologie. Il y a ce qu'on appelle la télé-expertise, j'ai besoin de votre avis en votre qualité de médecin cardiologue, je vous appelle, vous engagez votre responsabilité et moi la mienne, et ça je pense qu'il faut mettre le paquet pour aller vers cette télé-expertise. Et puis il y a la téléconsultation. La téléconsultation, c'est pas tout à fait une consultation habituelle, on n'examine pas le patient finalement, mais on se voit au travers d'un écran, d'un smartphone. Ça doit être accompagné, mais ça ne doit pas devenir l'alpha et l'oméga de la réponse aux soins.
Oui, c'est peut-être complémentaire.
C'est complémentaire. C'est pour résoudre un problème ponctuel, un problème plus simple.
Parce qu'on sait en plus que cette téléconsultation, elle est surtout pratiquée par les populations jeunes et moins par les populations plus âgées.
Oui, parce que les populations plus jeunes sont plus geeks, vivent plus avec une technologie qui leur est propre, même si les plus âgés le font également. Les plus âgés de notre société ont bien le souci de contacter leurs petits-enfants. Ils le font comment? Par les outils connectés.
On n'a pas l'impression que le français est un peu trop déresponsabilisé? Tout est gratuit, tout est pris en charge, on ne lui dit jamais ce que les soins coûtent.
Alors, vous savez qu'à la tête de la CSMF, j'ai mis comme mot-clé sous ma présidence, qui date d'un peu plus d'un an, les mots droits et devoirs. On me l'a parfois reproché en me disant, mais comment vous mettez droits et devoirs pour les médecins libéraux? Non, droits et devoirs pour chacun. Pour les médecins de s'organiser, et pour ça il nous faut des moyens, il faut qu'on nous écoute, et on a des propositions concrètes. Pour l'État et les financeurs, pour nous donner les moyens d'agir, mais aussi pour les consommateurs de soins qu'on est tous potentiellement, c'est-à-dire les patients. C'est-à-dire aller déranger son médecin alors qu'il y a une très grande difficulté d'accès aux soins, pour aller chercher un certificat de sport qui n'est plus nécessaire aujourd'hui, on doit régler ce problème-là. De la même façon, et même si on veut parfois pas en entendre parler, aller déranger son médecin pour quémander un arrêt de travail de courte durée. Vous avez vu comme moi que nos voisins portugais viennent de passer le pas et que on peut s'auto-déclarer. Vous parliez que mon interlocutrice juste avant de la période Covid qui nous a tous marqués. Pendant cette phase Covid, on s'auto-déclarait en arrêt de travail quand nous étions malades. Acceptons d'ouvrir des nouvelles voies qui amélioreront l'accès aux soins.
Merci beaucoup Franck de Vulder, sachez qu'on est avec vous et vous revenez quand vous voulez.
Avec plaisir Fabien,
merci beaucoup
pour votre invitation.
Voilà, on va finir avec le Rémi Tesson National qui est le patron de Buzz e-Santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Rémi Tesson, bonjour.
Bonjour Fabien.
Ravi de revenir une 250e fois dans l'émission.
C'est toujours un plaisir.
C'est toujours le plaisir à partager. Il va bientôt me prendre ma place. Donc vous êtes le patron de Buzz e-Santé. Ça serait peut-être le moment de nous dire ce que fait exactement Buzz e-Santé.
Bah, Buzz e-Santé, à la base, c'est un média d'information sur le numérique santé. Et aujourd'hui, j'accompagne différents acteurs sur du conseil, de la formation, de l'éditorial et puis tout ce qui est acculturation des équipes et des professionnels de santé.
D'accord, donc ça depuis de nombreuses années, j'imagine.
Voilà, ça va faire 5 ans cette année que je me suis lancé dans le bain de l'entrepreneuriat individuel.
Et on sait que vous êtes très suivi, très écouté. par le monde médical.
Exactement, bah, sur les réseaux sociaux, une communauté au global, oui, de un peu plus de 50 000 followers.
Alors, donc on va parler de pas mal de petites choses. En premier, il y a ce qu'on appelle le fameux PECAN. C'est en fait, et ça c'est nouveau, c'est la prise en charge de dispositifs médicaux numériques.
Exactement. Alors c'est un processus dérogatoire. Et ce sont des dispositifs médicaux qui doivent répondre à un certain nombre de critères. Ce sont des dispositifs médicaux déjà qui doivent avoir un marquage CE. Et qui doivent apporter une vraie preuve, une vraie plus-value, que ce soit à travers des besoins cliniques, enfin une vraie plus-value clinique basée sur des études, etc. Donc là, on peut penser à toutes les thérapies digitales dont on entend souvent parler. Ou alors, ça peut être des solutions qui améliorent l'organisation des soins, sans altérer la qualité des soins, évidemment.
Et il faut que ça soit aussi innovant, c'est ça?
Exactement. Ouais. Et il y a tout un processus de soumission auprès de l'HAS, qui du coup, après, permet de valider.
Il y a des exemples concrets, non?
Pas encore, ça a été vraiment annoncé fin mars, et donc c'est en train de se mettre en place, parce qu'il faut quand même un certain nombre de mois pour que les dossiers arrivent donc, et soient examinés.
Donc les boîtes devront déposer un dossier, c'est ça pour...
Exactement.
La télésurveillance?
Exactement. Bah, comme PECAN, ça fait partie de la loi de financement de la sécurité sociale et qu'il y avait eu les décrets qui avaient été publiés en décembre dernier. Et là, il y a eu l'annonce aussi des différentes tarifications.
Enfin, de télésurveillance, évidemment, pas de téléconcession, de télésurveillance.
Télésurveillance, donc suivre à distance des patients, donc était déjà dans un programme d'expérimentation qu'on appelait ÉTAPE, dans un certain nombre de maladies chroniques, hein, comme le diabète, insuffisance cardiaque, etc. Et aujourd'hui, ça rentre dans le droit commun et à partir du 1er juillet, les actes de télésurveillance seront remboursés suivant les tarifs qui ont été établis.
Alors, il y a beaucoup, évidemment, d'applications qui sont sorties, beaucoup de plateformes, etc.
Exactement.
Elles sont pas toutes aussi efficaces à comprendre, à interpréter. Et il y a justement eu un acteur majeur, c'est Access First, qui a fait une étude, qui a étudié pas mal d'applications, les principales.
Ils sont spécialisés dans tout ce qui est analyse de l'accessibilité des outils numériques, notamment pour les personnes atteintes de handicap, ça peut être des déficiences visuelles ou autres. Et en tout cas, ce qu'ils ont analysé, c'est les principales applications qu'on a aujourd'hui, hein, comme... Bah, Amélie, Mon Espace Santé, Doctolib, tous les grands acteurs aussi de la télé.
Je vais dire Amélie, Doctolib, Hellocare, Livy France, Maya, Medadom, Médecin Direct, c'est ça, Mon Espace Santé, Care et Calio.
Exactement. Et donc, le verdict, c'est qu'il y a très peu de ces applications qui répondent aux critères d'accessibilité pour les personnes.
C'était quoi ces critères, alors, justement?
Alors, les critères sont basés déjà sur l'accès pour les personnes à déficience visuelle, ne serait-ce que via le clavier, c'est tout ce qui va être autour aussi des contrastes, des couleurs, de la tabulation, de pouvoir finalement être facilement accessible pour toutes les personnes à déficience visuelle qui utilisent des solutions pour lire les pages internet, etc. Donc aujourd'hui, c'est un vrai enjeu qui est important.
Et ce qui est incroyable, c'est accessibilité. Est-ce qu'il n'y a quasiment aucune de ces applications qui répond aux quatre critères?
Alors, aucune répond aux quatre critères et il n'y en a quasiment aucune non plus qui répond à deux voire trois critères. C'est très... C'est un peu alarmant finalement sur ce sujet-là.
Donc du coup, proposer à ces applications
de revoir un petit peu cette accessibilité, parce que du coup, on met de côté une partie de la population qui ne peut pas accéder à ces solutions, d'autant plus qu'on a déjà une partie de la population qui est exclue, notamment celles qui sont atteintes de ce qu'on appelle d'électronisme, qui aujourd'hui représente 16 millions de personnes quand même, et qui n'ont pas accès du coup à ces solutions parce qu'ils sont dans des zones blanches, sans accès au numérique ou par manque de compétences.
Donc cette étude, on peut aller sur Access First pour la voir. Deuxième petite révolution, ce sont les jumeaux numériques, rapidement.
Exactement. Bah, les jumeaux numériques, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, notamment au niveau de la recherche, puisque ça permet de faire gagner un certain nombre de temps dans les premières phases d'expérimentation, parce qu'on va pouvoir faire des essais, non plus finalement sur l'humain ou sur les animaux, mais on va travailler sur des patients virtuels à travers tout un magma de données qui sont analysées. Et donc, on parle beaucoup maintenant d'essais in silico et non plus d'essais in vivo. Et ça permet du coup de développer des produits, des médicaments, etc., beaucoup plus rapidement.
Oui, ça a pas mal de bénéfices, notamment sur la prédiction aussi, parfois sur le pronostic. Ça peut aider aussi le chirurgien à opérer.
Voilà, donc ça, c'est le principal usage qu'on voit aujourd'hui, c'est pour préparer les interventions chirurgicales, c'est-à-dire qu'on va prendre toute l'imagerie médicale du patient, on constitue un jumeau numérique, et ça permet vraiment de connaître le bon positionnement des organes, par où commencer l'intervention, etc. Et ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus se déployer. On a vu notamment, lors des derniers prix Check-up Santé, Visible Patient, qui a été promu et qui travaille sur ces sujets.
Alors, pour finir, la start-up du mois?
Alors la start-up du mois, oui, c'est Archeon Medical qui nous vient de Besançon et qui est une start-up qui travaille sur tout ce qui est la ventilation cardio-pulmonaire et notamment pour accompagner les secouristes à faire une bonne ventilation de haute performance. Mmh. Et c'est une start-up qui a développé donc un dispositif médical qui s'appelle EOLIFE.
Évidemment, en cas de...
Exactement, puisqu'il faut savoir, c'est vrai que les arrêts cardiaques, c'est toujours la première cause de mortalité dans le monde. Et donc, c'est une start-up qui vient d'obtenir aussi la mise sur le marché américain. Ils ont eu l'obtention par la FDA de pouvoir diffuser donc ce produit-là et qui est déployé dans une quinzaine de pays aujourd'hui.
Mais en quoi est-elle différente des autres des applications, des autres...
Alors là, c'est une solution qui vient se mettre directement sur le ballon de l'urgentiste et qui permet de contrôler efficacement la ventilation manuelle et de ne pas dépasser un certain nombre de...
Qui permet de savoir si le patient est bien oxygéné.
Exactement,
si
et donc ça simplifie le travail de l'urgentiste.
Merci beaucoup Rémi.
Merci Fabien.
Merci, à très vite pour la 252e.
Avec plaisir.
Merci, voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.